Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Aujourd'hui, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie appelle le monde à insister l'Israël à respecter les droits des travailleurs palestiniens. La noix de muscade du nord de Sulawesi pénètre le marché italien. Le ministère indonésien de l'industrie développera 4 zones industrielles halal. L'Indonésie et la Pologne se sont engagées à renforcer la coopération entre les parlements. » Voici le journal complet. L'Indonésie a la réunion de solidarité internationale avec le peuple et les travailleurs de la Palestine, tenue à Genève, Suisse, jeudi, a appelé la communauté internationale à insister l'Israël à respecter et à appliquer les droits des travailleurs du peuple palestinien. L'appel a été présenté par le représentant permanent de la République d'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'OMC, et d'autres organisations internationales à Genève, Hassan Clay. C'est ce qu'a affirmé le représentant permanent de l'Indonésie à Genève, reçu à Jakarta récemment, lors de la réunion à laquelle ont assisté Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail, et la délégation de pays membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur Hassan Clay, a souligné que l'Indonésie était très préoccupée car à l'occasion de son 100e anniversaire, l'OIT, ou l'Organisation internationale du travail, discute de l'avenir du travail décent, mais les travailleurs palestiniens ont toujours du mal à trouver un emploi. L'Indonésie encourage l'Organisation internationale du travail à continuer d'aider la Palestine à réaliser un travail décent pour tous et à assurer la protection et le bien-être des travailleurs palestiniens. La province de Sulawesi du Nord exporte de la noix de muscade en Italie au début de juin 2019, à la suite d'une demande assez forte dans le pays. C'est ce qu'a déclaré par le chef du bureau de l'industrie et du commerce de Sulawesi du Nord, Jenny Karu, à Manado vendredi. La noix de muscade, en particulier celle des îles Siau, est très demandée par les acheteurs européens. L'exportation de noix de muscade en Italie renforce ce produit en tant que contributeur important de devises de la province. Outre l'Europe et l'Amérique, la noix de muscade de Sulawesi du Nord commence à être en demande par le marché africain. Par conséquent, Jenny Karu espère que les producteurs de noix de muscade profiteront de cette opportunité d'exportation pour accroître leur production et leur qualité, de sorte que ce produit soit préféré par la communauté mondiale. Le ministère de l'Industrie continue d'accélérer le développement des zones industrielles halal pour développer des produits conformes au système de garantie des produits halal. L'autre fonctionnaire du ministère de l'Industrie, Ignatius Warsito, a dit que récemment qu'il y avait 4 zones industrielles qui étaient incluses dans le projet de développement des zones industrielles halal en Indonésie. Les 4 zones industrielles sont Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung et Modern Cikande Industrial Estate. Selon Ignatius Warsito, le développement de cette zone est l'un des efforts visant à soutenir la mise en œuvre de la certification des produits halal le 17 octobre 2019. Dans le développement des zones industrielles halal, le ministère de l'Industrie a le devoir de définir des normes, de donner des incitations et de faciliter la promotion et la coopération technique. Ces aspects sont réglementés dans la réglementation du ministre de l'Industrie. Les parlements indonésiens et polonais se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux pays par l'intermédiaire du groupe de coopération bilatérale polono-indonésien. La présidente de la coopération bilatérale polono-indonésienne, ou abrégée en GKSB, Danuta Pietraszewska, l'a déclaré dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie en Pologne à Jakarta jeudi dernier. Monsieur Pietraszewska a déclaré l'engagement de renforcer la coopération lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie en Pologne, Siti Nugraha Mauludia, ainsi que celle de 16 membres du Parlement polonais membre de la GKSB à chambre de l'ambassadeur de la République d'Indonésie. Au cours de la réunion, l'ambassadeur d'Indonésie a apprécié la coopération croissante entre le Parlement polonais et indonésien ces dernières années, notamment par les chances de visite parlementaire. Siti Nugraha a également proposé d'organiser une réunion similaire tous les 6 mois afin de discuter des derniers développements pour l'amélioration des relations entre les deux pays. Voice of Indonesia avec la mise au point de la semaine aujourd'hui, intitulée « Ensemble, gardons le procès de la Cour constitutionnelle propice ». La Cour constitutionnelle a commencé à entendre ouvertement le différend concernant le résultat de l'élection présidentielle. Après l'audience préliminaire de vendredi, la Cour tiendra une audience du 17 au 21 juin. La lecture du verdict est prévue pour le 28 juin. Le juge en chef de la Cour constitutionnelle, Anwar Usman, à Jakarta mercredi, a déclaré que 9 juges constitutionnels étaient prêts à juger le différend concernant les résultats des élections. Il a ajouté que son parti aurait pu décider le différend sur l'élection présidentielle de 2019 plus tôt que prévu. Selon lui, tout dépend des événements du procès. Il a également appelé les partisans des candidats à la présidence et à la vice-présidence à ne pas être présents à la Cour constitutionnelle. On espère que toutes les parties maintiennent l'atmosphère propice lors du procès sur les résultats des élections générales à la Cour constitutionnelle. Anwar Usman a promis que la Cour constitutionnelle travaillerait de manière professionnelle et ouverte pour entendre les différences sur les résultats des élections soumises par le candidat à la présidence et à la vice-présidence, Prabowo Subianto et Sandiaga Uno. Selon lui, une préparation spéciale s'est prière. Il a souhaité que l'État unitaire de la République d'Indonésie reste intact. Avant le procès, un certain nombre de personnalités ont interjeté appel afin d'éviter toutes les collectes massives autour du bâtiment de la Cour constitutionnelle. Prabowo, par la vidéo, a également demandé à ses partisans de ne pas se rendre au tribunal pendant le procès. Le chef d'état-major présidentiel, Muldoko, a apprécié la déclaration de Prabowo. Selon lui, les partisans de Prabowo Sandi doivent suivre ce mouvement. Tandis que le porte-parole de la Cour constitutionnelle, qui est également juge justice constitutionnelle, Idewa Gede Palguna, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des manifestations. En effet, la Cour constitutionnelle a examiné des affaires indépendantes et impartiales sur la base des preuves révélées par le tribunal. Palguna a ajouté que le monde entier pouvait assister au procès, pas seulement à la télévision, mais également aux chaînes en direct sur YouTube de la Cour constitutionnelle. C'est tout la mise au point de la semaine.
Voice of Indonesia.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 16 juin 2019. On commence par le titre « Le 16 juin 1908, la guerre de Belasting à Sumatra de l'Ouest ». La guerre de Belasting ou la guerre d'Ampo est une guerre armée qui a eu lieu à cause des actions arbitraires du gouvernement néerlandais à la population de Minang, Sumatra de l'Ouest, en raison de l'application d'impôts ou de taxes foncières contraires aux coutumes de Minangkabau. Cette guerre a commencé à Kamang, puis s'est étendue à d'autres régions telles que l'Intaubuo à Padang, Sumatra de l'Ouest. Cette guerre était dirigée par la combattante de Minang, Siti Manggopo. Siti Manggopo était très courageux et persistant dans son opposition aux colonies étrangères du gouvernement des Indes néerlandaises. La suite, le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova, la première femme astronaute de l'Union soviétique. Valentina Vladimirovna Tereshkova est née le 6 mars 1937 à Bolshoye Malsenikovo, à l'oblast de Yaroslav, en Russie. Elle était cosmonaute de l'Union soviétique. Elle est la première femme au monde à voler dans l'espace. Elle volait avec la navette spatiale Vostok 6 en 1963. Valentina Tereshkova restait dans l'espace pendant 70 heures et 50 minutes. Elle a entouré la Terre 48 fois. Le 16 juin 2010, le Bhoutan est devenu le premier pays à interdire totalement le tabac. La loi sur le contrôle du tabac du Bhoutan a été adoptée par le Parlement le 16 juin 2010. Cette loi régit et interdit la plantation, la récolte, la production et la vente de tabac au Bhoutan. La loi oblige également le gouvernement bhoutanais à fournir des conseils et des soins pour faciliter la cessation du tabac.
Mama.
Voice of Indonesia, vous venez d'écouter la chanson intitulée Dia, ou en français, Lui, chantée par Reza. Pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie, intitulée L'ancien grand maître super participe au tournoi international d'échecs à Yogyakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. 12 joueurs d'échecs étrangères, dont les 5 sont femmes, vont tester la résilience des joueuses nationales lors du tournoi international d'échecs du grand maître de la Japfois et du grand maître féminin de 2019 qui ouvrira ses portes jeudi à Yogyakarta. Parmi les joueurs d'échecs étrangères figure le nom de grand maître Ivan Sokolov, qui a été nommé le grand maître et qui a remporté une note Elo de 2706 en janvier 2004. Le GM Dmitri Kokarev de Russie est un autre joueur d'échecs réputé qui participera au grand maître japonais et au grand maître féminin 2019. Avec une note de 2609, le joueur d'échecs qui a remporté le titre de grand maître en 2007 est devenu le joueur d'échecs le mieux classé du tournoi organisé par la collaboration de PB Perkasi avec Japfois Kamfit. Outre les deux joueurs d'échecs, les autres joueurs étrangers qui joueront sont GM Rustam Husunuddinov de Kazakhstan, 2471, GM Raghunandan Kaumandur Srihari d'Inde, 2442, IM Arghyadip Das d'Inde, 2439, et IM Rafi Teja d'Inde, 2405. Les joueurs d'échecs se battront avec les joueurs d'échecs nationaux. Pour la catégorie hommes indonésiens, ils ont notamment abaissé le GM Susanto Megaranto, 2548, IM Novendra Priyasmoro, 2457, et les joueurs d'échecs WJM Medina Warda Aulia, 2375. GM Susanto Megaranto, 2548, a brillamment pris son départ au tournoi d'échecs des grands maîtres internationaux et des grands maîtres féminins 2019 de Japfois, après avoir battu le GM Ivan Sokolov, 2595, lors de la première partie jeudi à Yogyakarta. Susanto a forcé le vétéran joueur d'échecs néerlandais à abandonner à la 49e étape. Cette victoire a conduit Susanto à diriger le classement du groupe masculin avec GM Rustam Husunuddinov de Kazakhstan 2471 qui a battu WJM Medina Warda Aulia 2375 en 47e étape et Raghunandan Kaumundur Srihari d'Inde 2442 en 30e étape. Le grand maître Utut Adianto, président de l'Association indonésienne des échecs, Perkasi, a expliqué la présence de joueurs étrangers a pour objectif de maintenir la qualité du tournoi japonais et de tester les capacités des joueurs. Pour la japonais, c'est la 20e fois qu'il sponsorise le tournoi international depuis 1999. De nombreux joueurs d'échecs nationaux sont nés de ce tournoi, comme GM Susanto Megaranto, IM Irene Harisma Sukandar et GMW Medina Warda Aulia.
Voice of Indonesia.
Gemerlap
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à l'onde courte de 3,325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous présente la plage de Batu Putih de l'île Alor, Nusa Tenggara de l'Est. La plage de Batu Putih, au sous-district de Kabola, est dans la même direction que la route de l'aéroport de Mali. Cet aéroport est la porte d'entrée de l'île d'Alor. Les touristes s'arrêtent généralement à l'aéroport d'El Tari de Kupang avant de continuer leur vol à Alor. Pour arriver à Alor, vous avez le choix entre deux modes de transport. Le premier est en avion Trans-Nusa. C'est le moyen le plus rapide et le plus coûteux d'aller à Alor, dont l'horaire est précis. La deuxième option, la moins chère, est le ferry qui part du port de Bolok, dont la durée de trajet est d'environ 14 heures. Ce ferry ne circule que deux fois par semaine au départ de Kupang, c'est mardi et samedi, vers 14 heures. Le ferry retournera à Kupang le lendemain à la même heure. Lorsque vous arrivez à la plage de Batu Putih, vous verrez la hauteur d'une colline. La longue côte est incurvée et a une couleur blanche et incolante, et à l'eau de mer bleu clair de Tosca, rendent parfait la beauté du paysage de la plage de Batu Putih. La plage de Batu Putih offre une vue magnifique. La position du soleil bloquée par la colline rend ombragée l'atmosphère de l'après-midi. La position de la plage est entaillée dans le nord. Les falaises seront vertes après la saison pluie. Mais pendant la saison sèche, c'est généralement le brun qui provient des herbes séchées. bord de la plage de Bateau Petit ou Pierre Blanche, décoré de petites pierres blanches. Nous verrons des pierres blanches de différentes tailles, de la taille d'un grain de riz à la grosseur d'une bière. Ce tronçon de roche s'étend sur le rivage de Bateau Petit. C'est l'unique cité de l'une des plages indonésiennes. Chers auditeurs, le nom de Bateau Petit vient de hautes falaises presque perpendiculaires qui sont aussi des frontières du village. La pierre blanche se dresse début entre le village et la plage. La plage s'appelle donc la plage de Bateau Petit. Lorsque vous êtes satisfait de jouer sur la plage de Bateau Petit, avant de quitter alors, pour revenir à Kupang, vous pouvez acheter des souvenirs spéciaux alors au marché près de la plage de Bateau Petit, tels que le tissage, des colliers de perles et des maisons traditionnelles miniatures. Vous pouvez également acheter des gâteaux typiques, tels que le gâteau de canari et de rambut. Voilà le magazine culturel sur la plage de Bateau Petit.
Voice of Indonesia.
Biarkan matamu menatap indahnya, katakanlah pada yang ber-
voilà Titi DJ avec la chanson Bintang Bintang qui signifie des étoiles. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur sur les informations intéressantes en Indonésie. Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec l'Indonésie en couleur. Cette édition parle d'Ubud Bali est prête à être la destination gastronomique mondiale. Chers auditeurs, la région d'Ubud, au district de Gianyar Bali, est prête à être la destination gastronomique standard mondiale de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, ou abrégée en OMT. L'équipe de l'OMT était en Indonésie pour mener une évaluation à Ubud. Le ministre du tourisme, Arif Yahya, a déclaré que Ubud avait été choisi comme destination gastronomique de classe mondiale car elle remplissait divers critères particuliers, de la gastronomie qui fait partie du mode de vie, l'utilisation des produits locaux, la culture et l'histoire locale, les aliments, la nutrition et la santé. Arif Yahya à la conférence de presse de destination gastronomique mondiale au bâtiment de Susilo Sudarman, au bâtiment de Sabta Pesona, ministère du tourisme Jakarta, a déclaré il y a quelque temps qu'en tant que destination culinaire de classe mondiale, elle devait également être certifiée. Chers auditeurs, Vita Data Umesa, présidente de l'équipe chargée de l'accélération du développement culinaire et des dépenses du ministère du Tourisme, dans le communiqué de presse de Diskominfo, Gianyar, a déclaré que cette détermination était une étape pour le développement des produits touristiques gastronomiques. Le programme du ministère du Tourisme et de l'OMT entre dans la phase de visite pour évaluer la destination. Selon lui, il a proposé Ubud comme destination gastronomique à l'OMT depuis 2017. En général, l'Indonésie dispose d'un grand potentiel de la diversité des cultures et de différents aliments locaux qui soutiennent la réalisation de destinations touristiques gastronomiques. Vita Datau a déclaré qu'il y avait trois étapes pour faire Ubud comme une destination gastronomique internationale. De l'enregistrement des actifs et des traits gastronomiques à la cartographie de la préparation des industries et des hommes d'affaires, puis compilé dans un rapport soumis à l'OMT. La deuxième étape concerne l'évaluation de l'OMT. Il existe un processus de vérification et d'analyse par la méthode comprenant des entretiens avec des acteurs de la gastronomie, des hôtels, des restaurants, des cuisiniers, des initiateurs des festivals gastronomiques, des gouvernements locaux, des universitaires, des agents de voyage et des touristes. Selon Vita, le processus d'évaluation a duré 8 jours à Ubud et ses environs. De même, le questionnaire a été réalisé en méthode en ligne et hors ligne pendant 3 semaines, tout en finalisant la planification et les stratégies de recommandation. En outre, les recommandations devront être appliquées par les parties prenantes pour la deuxième évaluation, ont été annoncées au début août 2019. Il souhaitait que ce programme soit réalisé tout de suite, afin qu'Ubud devient le premier prototype gastronomique holistique en Indonésie et dans le monde. Selon le Panglingsir, ou le dirigeant de Puri Agung Ubud, Ida Chokorda Raka Sukawati, la lutte d'Ubud pour se faire connaître du monde est très longue. Cela est indissociable de la force d'Ubud dans le maintien des traditions culturelles et artistiques en errant de génération en génération. Soutenu par tout le potentiel naturel et la sagesse locale, Ubud est unique selon des touristes. C'est toutes les informations sur Ubud Bali qui est prête à être la destination gastronomique mondiale.
Sama dirimu aku terima.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de Samson, intitulée « Dengan Nafasmu ». Nous continuons notre programme avec les informations musicales et nous allons dire bonjour à nos amis à d'autres coins du monde.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales et les rapports d'écoute, et aussi les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vous présente la chanson d'Alia Masaid. Alia Masaid est chanteuse qui a le talent de ses parents, l'une des divas indonésiennes Reza Artamevia et le célèbre acteur Haji Masaid. Par son premier single intitulé Ulangi, en français répété, Alia a prouvé son talent. Cette chanson raconte une femme qui s'était trompée et craignait de perdre son amant. Elle espérait pouvoir répéter leur histoire d'amour depuis le début. Bon, bien le bonjour en France à Marichal Pierre, de 17 allées de Trou-Jallet, la France, et pour Jean Barba, de 168 Avenue du Stade, de 63110 Beaumont, France, et pour Maurice Mercier, de 537 rue François Giraud, de 69400 Villefranche-sur-Saône, et Jean-Marie Monplo de 409 Faubourg Montmélian, de 73000 Chambéry, France, et Christian Gibaudot de la rue Gaston Charbonnier, de 06300 Nice, la France, et Bernard Grandin de Saint-Rouel-du-Pont, de 97427 Étang-Salée, les autres, île de la Réunion, océan Indien. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Et meilleure salutation à Merlin Mourad à Narmouchi Nouari de BP 154 Bicetif 19000 Algérie et Lassa Somar de BP 530 Bureau de Poste Émir à Eka de 9008 Maskara Algérie et pour Abdelkader Khalil de BP 669 Ouargla Algérie. Merci chers auditeurs d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. L'équipe de Voice of Indonesia vous dit un grand merci à tous. Avant de terminer ce programme, écoutons la chanson dont le titre est Ulangi, chantée par Alia Masaid. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Maafkanlah semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu, ku takut bila kau
Voice of Indonesia.
Jangan
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook The Voice of Indonesia. À bientôt!